de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Megawati a inauguré le KRI Bung Karno à l'occasion de l'anniversaire de Pancasila. L'OMC forme un groupe spécial de règlement des différends Indonésie-Union européenne concernant les produits hydrogiques indonésiens. Le ministère de l'Investissement garantit la facilité d'investissement dans IKN. L'avion A380 a atterri à l'aéroport international de Ngurah Rai. Le ministère de l'Intérieur organise l'exposition d'Indonésie avancée pour promouvoir les produits régionaux de qualité supérieure. L'OTAN est prête à déployer des troupes supplémentaires pour réprimer les émeutes du Kosovo. Voici le journal complet. La cinquième présidente de la République d'Indonésie, Megawati Soekarnoputri, a inauguré jeudi le KRI Bung Karno 369 au quai Colline Lamil de la Marine à Jakarta en présence du commandant en chef de TNI, l'amiral TNI Yudo Margono, et du chef d'état-major de la Marine indonésienne, l'amiral TNI Muhammad Ali. La cérémonie d'inauguration a eu lieu coïncidant avec la naissance de Pancasila qui est célébrée chaque 1er juin. Dans ce remarque, Megawati a affirmé que le nom de son père, le proclamateur de l'indépendance de la République d'Indonésie, Soekarno, utilisé pour les navires de guerre indonésiens KRI, était une fierté. L'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce, ORDOMC, a officiellement formé le 30 mai un groupe spécial de règlement des différends commerciaux entre l'Indonésie et l'Union européenne, lié à la politique d'imposition de droits de remboursement et droits anti-dumping de l'Union européenne sur les produits sidérurgiques indonésiens. Il s'agit de la déclaration écrite du représentant permanent adjoint de la République d'Indonésie auprès de l'OMC, Dandi Satria Iswara, cité par Antara jeudi. Dandi a écrit que la mise en œuvre de politique de l'Union européenne avait aboli ou réduit les avantages obtenus par l'Indonésie, directement ou indirectement, sur la base de l'accord Connex. L'Indonésie souligne que ces mesures sont incompatibles avec les obligations de l'Union européenne au titre de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'accord anti-dumping et de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce GATT de 1994. Le ministère de l'Environnement, Conseil d'Organisation des Investissements, BKPM, a organisé les activités d'une série de visites d'affaires de Singapour à la capitale de Nusantara pendant 3 jours, du 30 mai au 1er juin 2023. Cette activité a réuni 95 délégués composés de 69 entreprises de Singapour. Le ministère de l'Environnement, BKPM, est prêt à fournir le meilleur service aux investisseurs qui investiront dans la capitale de Nusantara, IKN, par le biais d'une réforme réglementaire en accélérant le processus d'octroi de licences en formulant des incitations et des services de bout en bout pour les investisseurs. C'est ce qu'a fait savoir Julio, adjoint au développement du climat d'environnement au ministère de l'Environnement, BKPM, dans sa déclaration de jeudi citée par Antara. L'ambassadeur de Singapour en Indonésie, Kok Fuk Seng, qui accompagnait la délégation, a déclaré que cette visite était une occasion spéciale pour Singapour de soutenir l'avancement du projet IKN. Le plus gros avion commercial actuellement détenu par Emirates, la 380, a atterri pour la première fois jeudi après-midi à l'aéroport international I Gusti Ngurah Rai de Bali, transportant 615 passagers de divers pays. Ce vol est historique car c'est la première fois et indique que Bali en particulier et l'Indonésie en général reste une destination pour les touristes étrangers pour les vacances. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de Bali, Iwayan Koster, lors de la cérémonie d'accueil de l'avion Emirates A380 à l'aéroport I Gusti Ngurah Rai de Tuban, Bali, jeudi. Pendant ce temps, le président directeur d'Angkasa Pura Persero Société Anonyme, Faik Fahmi, a déclaré que sa partie et les autres parties prenantes s'étaient préparées de manière optimale pour accueillir l'arrivée de la 380. Pour gérer le placement de l'Airbus A380-800, des dispositifs de stationnement des avions ont été mis en place autour de celui-ci, qui sont alloués aux avions de fuselage moyen et étroit pour s'adapter aux dimensions de la 380-800 qui a une envergure de 79,5 mètres. La Direction générale de la politique et l'administration générale du ministère de l'Intérieur a organisé l'exposition de l'Indonésie avancée et le Forum 2023 du 1er au 4 juin 2023 à Taman Mini Indonesia Indah pour promouvoir les produits régionaux de qualité supérieure. Le thème de l'exposition est transformation économique et nationalisme pour une Indonésie durable. C'est ce qu'a déclaré le directeur de la résilience économique, sociale et culturelle de la Direction générale de la politique et de l'administration générale du ministère de l'Intérieur à Angwitar Sarofik lors de l'ouverture de l'exposition L'Indonésie avancée et le Forum 2023 à Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, jeudi. Aang a déclaré que cette activité vise à soutenir la reprise économique nationale en renforçant l'utilisation des produits nationaux présentés par les micro, petites et moyennes entreprises, MPME, par le biais du programme FIER, aimer et utiliser les produits indonésiens. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, est prête à déployer davantage des troupes au Kosovo pour réprimer la violence dans le Nord ethniquement polarisé. C'est ce qu'a dit le chef de l'Alliance, Jens Stoltenberg, jeudi, cité par Reuters. Stoltenberg a déclaré que 700 soldats supplémentaires du premier groupe étaient en route pour le Kosovo. Les troubles dans le nord de Kosovo ont éclaté depuis qu'un maire d'origine albanaise a pris ses fonctions dans une zone à majorité serbe de la région après les élections d'avril boycottées par les Serbes. L'OTAN a décidé de renforcer sa mission de 4000 hommes dans la région en envoyant 700 hommes supplémentaires. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Oh,
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, intitulée « Erdogan revient à la tête de la Turquie ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chargé d'État, Recep Tayyip Erdogan a été réélu président de la Turquie après avoir remporté le second tour des élections présidentielles dans le pays. Sur la base des résultats du décompte des voix, Erdogan a remporté avec 52,14% des voix son concurrent Kemal Kılıçdaroğlu, qui a recueilli 47,86% des voix au second tour de l'élection présidentielle turque. Auparavant, lors du premier tour du 14 mai, aucun candidat à la présidentielle n'avait dépassé le seuil des 50%. Erdogan a empoché 49,52% des voix, tandis que son concurrent Kılıçdaroğlu a remporté 47,86% des voix, de sorte que l'élection présidentielle s'est poursuivie jusqu'au second tour. Il y a plus de 64,1 millions de personnes inscrites sur les listes électorales en Turquie, dont quelques 1,92 millions de personnes à l'extérieur du pays qui ont déjà voté. Selon un professeur de sciences politiques à l'université Bilgi d'Istanbul, Emre Erdoğan, le président Tayyip Erdoğan a réussi à se présenter comme un sauveur national face aux menaces, tout en conservant le soutien d'électeurs conservateurs longtemps marginalisés. Erdoğan a pu faire appel à son électorat musulman conservateur, en décrivant à plusieurs reprises l'opposition comme pro-LGBT pendant sa campagne électorale. Il a également accusé le candidat présidentiel de l'opposition, Kılıçdaroğlu, d'avoir des liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK, qu'il considère comme des terroristes en raison de l'insurrection qu'il mène depuis 1984. Kılıçdaroğlu a qualifié les affirmations de diffamatoires. D'un autre côté, pour Erdoğan, cela l'a aidé à détourner l'attention des problèmes économiques, y compris la crise du coût de la vie. Au milieu des moments difficiles, certains partisans d'Erdoğan disent qu'il est la bonne personne pour régler la situation. Le leadership d'Erdoğan dans le pays est toujours ce que la plupart des gens veulent. Pas très différent sur la scène mondiale. Il peut encore affirmer son influence. Un certain nombre de chefs d'État, tels que le président russe Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden, ont félicité Erdoğan pour sa victoire à l'élection présidentielle de cette année. Poutine a qualifié la victoire d'Erdoğan de preuve que le peuple turc apprécie la politique étrangère indépendante d'Erdoğan. Pendant ce temps, Biden a déclaré qu'il se réjouissait de poursuivre la coopération en tant que membre de l'OTAN sur les questions bilatérales et de faire face aux défis mondiaux. Le président indonésien Joko Widodo a également félicité Recep Tayyip Erdoğan pour sa réélection à la présidence de la Turquie. Par le biais de son compte Instagram, @jokowi, le président a déclaré que l'Indonésie était prête à poursuivre et à renforcer le partenariat stratégique Indonésie-Turquie au profit des peuples des deux pays. Bon, chargé et tard, c'est tout. Le commentaire. La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023, est sous la forme d'un concours d'écriture. écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 ans enregistrement dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicquiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 2 juin, le jour de la République italienne. La fête de la République italienne, connue en Italie sous le nom de Festa della Repubblica, est une fête nationale célébrée en Italie le 2 juin. Cette journée commémore le résultat du référendum de 1946, lorsque le peuple italien a voté pour changer son pays d'une monarchie à une république. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 2 et 3 juin 1946, le peuple italien était invité à voter et à décider quelle forme de gouvernement il souhaitait, à savoir rester un royaume ou passer à une république. En conséquence, la majorité du peuple italien a soutenu l'établissement d'une république. À la suite du référendum, le roi Umberto de l'Italie a abdiqué et a quitté le pays, et une assemblée constituante a été formée pour formuler une nouvelle constitution. Le 1er janvier 1948, la nouvelle constitution entre en vigueur et l'Italie devient officiellement une république. En 1962, la bataille de Santiago, le match de football le plus brutal de l'histoire. Le match de football dans la Coupe du monde de la FIFA entre le Chili et l'Italie est devenu le match de football le plus brutal de l'histoire. Le match a été surnommé la bataille de Santiago. Les forces de l'ordre ont dû pénétrer à plusieurs reprises sur le terrain pour séparer les joueurs impliqués dans des affrontements tout au long du match. Ce match a eu lieu à Estadio Nacional, qui est situé à Santiago, la capitale et la plus grande ville du Chili. Au total, 66 057 personnes ont regardé ce match en direct au stade. Dirigé par l'arbitre Ken Aston, ce match a été remporté par le Chili sur le score de 0. Le 2 juin 1994, le tremblement de terre qui a causé le tsunami de Banyuwangi. Le tremblement de terre et le tsunami de l'est de Java en 1994 étaient un tremblement de terre tectonique centré dans l'océan Indien le 2 juin 1994 à environ 18h17 heure locale. 7 heures après le tremblement de terre, des vagues de tsunami ont frappé la côte sud de Java orientale dans la partie orientale du district de Banyuwangi, le 3 juin 1994, au matin. Le tsunami causé par ce tremblement de terre tectonique a causé des dommages totaux aux colonies de la côte sud de la région de Banyuwangi, telles que la place de Plengkung, la place de Pancher et la place de Rajakosi, qui ont été rasées. On estime que 215 personnes sont mortes. Le nombre de morts était très élevé parce que le tsunami s'est produit tôt le matin. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Sejuritak bonsoir, voici Mon Indonésie et en pour la titre, les produits artisanaux du monde doivent booster l'innovation. Le ministère de l'Industrie continue d'encourager l'innovation et de renforcer l'écosystème d'artisans et d'entrepreneurs dans le secteur de l'artisanat de la mode afin que les produits artisanaux indonésiens puissent être compétitifs sur le marché mondial. Dans une déclaration reçue par Antara, mardi 30 mai, la directrice générale des petites, moyennes et multi-industries du ministère de l'Industrie, Reni Yanita, a déclaré que les produits artisanaux sont l'un des atouts culturels de l'Indonésie qui ont de hautes valeurs artistiques et esthétiques. Selon Reni, dans le cadre de la diversité culturelle de l'Indonésie, les produits artisanaux ont un grand potentiel pour améliorer le bien-être économique de la communauté et peuvent être une source de revenus pour les acteurs commerciaux. Afin d'aider les artisans, la Direction générale des petites, moyennes et multiples industries a organisé il y a quelque temps un talk show dans le cadre d'une série de célébrations pour le 43e anniversaire du Conseil national de l'artisanat de Kranas à Medan, dans le nord de Sumatra. Lors de l'événement entre la création de nouveaux entrepreneurs, succès des artisans, les artisans ont dialogué avec des personnes ressources qui sont directement impliquées dans l'industrie de l'artisanat et de la mode. La discussion a également porté sur l'augmentation de l'utilisation d'une variété de littérature indonésienne dans divers produits artisanaux et vestimentaires. Comme la tenue de sa mise en œuvre dans la ville de Medan, la discussion a également disséqué la richesse de tissage ulos du nord de Sumatra, qui a réussi à devenir un produit culturel à valeur ajoutée et a le potentiel de se vendre haut sur les marchés locaux et mondiaux. De plus, diverses stratégies de marketing numérique pour les entrepreneurs artisanaux sont également discutées. À cette occasion, Reni Yanita a rappelé que les entrepreneurs du secteur artisanal doivent comprendre le caractère unique des produits artisanaux en tant que produits à valeur ajoutée, pouvoir continuer à innover en suivant les tendances et être en mesure de répondre aux besoins du marché afin qu'ils puissent être acceptés dans les marchés locaux et les marchés mondiaux. Reni a également indiqué que les entrepreneurs du secteur de l'artisanat doivent également renforcer les aspects de gestion d'entreprise à la fois liés au marketing, image de marque, promotion des ventes de produits et distribution, aux aspects des produits, aux finances ainsi qu'aux ressources humaines et aux artisans. René a également souligné l'importance d'un esprit de collaboration et de courage pour démarrer une entreprise d'entrepreneurs artisanaux. Il est également nécessaire de se soutenir mutuellement afin que le secteur de l'artisanat indonésien se renforce. C'est Zuritak, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Cerita cinta. kita memang mesti bersatu. Mengapa harus ragu? Tak kusangka kita sama. Telah menyimpan kita cinta.
Chers auditeurs, c'était la 12e chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde. Avec moi, Audrey, ce soir, je vais vous présenter l'émission de magazine culturel. Et cette fois, je vais vous présenter Tradition Aru de Badudouk. Chers auditeurs, le 27 mai dernier, la communauté hindoue Dayak du village de la Buane, Batang Alai Selatan et de Hulu Sungai Tengah dans le sud de Kalimantan a organisé le Badudouk traditionnel Aru après la récolte. Pour le peuple Dayak, après la fin de la saison de la récolte du riz, ils ne doivent pas utiliser et encore moins vendre leur récolte avant que l'influence coutumière ne soit exercée. L'influence indigène fait partie des enseignements de l'hindouisme, à savoir Panchayagna. Panchayagna sont cinq types de cérémonies sacrées organisé par les hindous pour atteindre la perfection de la vie. Il y a jusqu'à 28 maisons qui effectueront Aru Badudu, composé de 96 umbun comme chef de famille. Chers amis, la cérémonie Panchayagna Aru Badudu pour la communauté hindoue Dayak Labuan a lieu une fois par an. L'influence Maratus Dayak Adat a un niveau cérémonial. Le niveau le plus bas est appelé Mahanyari. Le niveau intermédiaire s'appelle Aru Badudu. Le grand ou niveau principal s'appelle Aru Bawanang. Dans le cadre d'Aru Badudu, il y a différentes étapes ou processus dans la cérémonie. Parmi celles-ci figurent les étapes préparatoires, à savoir les délibérations familiales, la préparation des installations et des infrastructures, ainsi que le bazar ou invitation de tous les résidents. La phase de mise en œuvre comprend basara ou bien badara hidup, fabrication d'équipements saji, basaji, bawanan. Après cela, c'est la dernière étape, à savoir Bapamali et Babagi Baras Baniru. La cérémonie Badara Hidup est une cérémonie très importante avant la cérémonie de pointe, parce que cette cérémonie est une cérémonie de purification de l'âme par organisateur de la cérémonie. La mise en œuvre d'Aruh Badudu devrait assurer la sécurité, la santé et une subsistance abondante. Cet espoir est surtout pour tous les descendants de la communauté Labouane d'Ayak, où qu'ils soient. À Aruh Adat, en plus d'être réalisé avec le peuple autochtone d'Ayak, des offrandes sont également requises. Les offres présentées dans cet Aruh Adat sont variées. Il y a des lamans blancs, des gâteaux de poupoudak, des gâteaux de chancrouk, des gâteaux de chuchur, des gâteaux de bouillie blanche. Il y a aussi du poulet fermier, de la noix de coco, des bananes amas, des bananes taro, des bananes palembang et de la cassonade. Cuisinier de l'aman ensemble fait partie du processus de préparation de cette cérémonie. Plus tard, la nourriture sera distribuée aux participants Aruh et aux invités présents. Pour les influences traditionnelles, l'ingrédient principal à ne pas manquer est le riz gluant. Ce riz gluant est cuit pour divers menus tels que le lamang, le dodol et les diamants. Apparemment, il existe une philosophie pour laquelle le riz gluant est un ingrédient obligatoire. Selon les croyances de la tribu d'Ayak, le riz gluant a une philosophie de bien-être et d'intimité. Avant de tenir une cérémonie sacrée, les chefs traditionnels Balian Sandaran ou Meratus d'Ayak exécutent un rituel spécial. Ils font du bamaman ou chante des mantras contenant des prières au Tout-Puissant. Bon, cher Gétard, c'est tout, le magazine culturel.
And I start to sing in my
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée BRIN, BRIN, recherche l'huile de citronnelle pour des médicaments anticancéreux. Vous êtes avec moi Audrey. Chers amis, l'Indonésie est un des pays avec la plus grande biodiversité au monde. Cette richesse naturelle peut être utilisée pour le traitement. L'Agence nationale de la recherche et de l'innovation, BRIN, mène des recherches sur les composés actifs dérivés de l'huile de citronnelle comme candidat pour des matières premières anticancéreuses. Galuh Widiarti, chercheur associé au Centre de recherche sur les matériaux médicinaux et les médecines traditionnelles de BRIN, Galuh Widiarti, a déclaré que la citronnelle contient des composés de citronellol et de géraniol qui ont plusieurs activités comme antibactériens, antifongiques, antiparasitaires et cytotoxiques contre certaines cellules cancéreuses. La recherche devrait accroître l'indépendance de l'Indonésie dans la production de matières premières médicinales dérivées de plantes médicinales pour soutenir le développement de l'industrie pharmaceutique indonésienne. BRIN amène des recherches en fabriquant des dérivés de composés esters, à savoir des esters de citronnelle et des géraniols. Les résultats des tests in vitro ont montré que les deux composés esters avaient une activité antimicrobienne plus forte que les composés acides, de sorte que les deux composés esters avaient le potentiel d'être développés davantage en composés antibiotiques. Les résultats de cette étude offrent un nouvel espoir d'obtenir des matières premières pour des candidats anticancéreux, du cancer du sein et des antibiotiques à partir de dérivés d'huile de citronnelle pour aider à résoudre le problème de la résistance aux antibiotiques. La citronnelle est un type d'herbe de l'ordre des graminales qui est typique des régions tropicales d'Asie. La citronnelle pousse toujours tout au long de l'année et c'est très connu comme épice dans la cuisine asiatique, en particulier dans la cuisine thaïlandaise et indonésienne. La citronnelle peut également être infusée en tisane avec un parfum de citron distinctif. Bon changer de tard, c'est tout. L'Indonésie en couleur. Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023, est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 ans, enregistrement dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicquiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson de Madura Java Oriental, intitulée Mosem Anye. Chers auditeurs, la chanson Mosem Anye, qui signifie « saison des pluies », parle des rizikochars de Madura. Ils attendent toujours la saison des pluies. Ils peuvent donc bientôt planter du riz. Comme certaines rizières de la région de Madura ne sont pas irriguées et ne peuvent compter que sur l'eau de pluie. Bon, chers auditeurs, voici Farisa va chanter une chanson intitulée Mosem Anye de Madura. Bonne écoute!
Ku renta
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.